France Culture.
Bonjour François Calame.
Bonjour Caroline.
Pour ce cinquième et dernier épisode de Nos Avenues, je vous propose dans un premier temps de parler du dernier chantier en date réalisé par Charpentiers sans frontières. C'est la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a été détruite lors de l'incendie du 15 avril 2019 et qui a rouvert ses portes le dimanche 8 décembre 2024 après un chantier pharaonique de 5 ans. On se souvient que le feu avait ravagé la flèche, la charpente datant du XIIe siècle, dite la forêt, et une partie des voûtes. Et le chantier de reconstruction, après une phase de 2 ans de sécurisation, a duré en fait 3 ans de reconstruction. Vous y avez donc largement participé. D'ailleurs, comment êtes-vous arrivé sur ce chantier? Est-ce que c'était tout naturel que, avec Charpentiers sans frontières, vous y soyez?
Alors, ce cataclysme qui a frappé tout le monde de stupeur nous a évidemment pris par surprise, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le 15 avril 19, ben voilà, nous étions comme le commun des mortels, scotchés devant nos postes de télévision et haletants en train de suivre le drame. Et on a eu la nuit pour y réfléchir et après en avoir échangé avec quelques-uns de nos amis à Charpentiers sans frontières, le 16 avril 19 à 8h du matin, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Régis Martin qui est l'inspecteur général chargé des monuments historiques pour Paris. Il se trouve que Régis Martin est un vieil ami, nous avions l'habitude de travailler ensemble depuis 15 ans. Il connaissait bien les travaux de Charpentiers sans frontières. Mais sur quoi j'insiste, qui m'a surpris, enfin qui m'a impressionné, c'est qu'à 8h du matin, j'avais Régis Martin à l'autre bout du téléphone. Et Régis Martin avait passé toute la nuit à faire la chaîne pour mettre à l'abri le trésor de la cathédrale. Il était sur le chantier, et avec les autres confrères architectes en chef des monuments historiques et bien d'autres volontaires, il faisait la chaîne donc pour, pendant le drame, mettre à l'abri les éléments mobiliers. Et le lendemain, à 8h du matin, il était au travail. Voilà, ça c'est, je pense que c'est la marque des architectes en chef des monuments historiques qu'on fabrique en France, c'est des gens d'une grande qualité. Régis Martin, au téléphone, de sa voix posée et calme, m'a demandé l'objet de mon appel et je lui ai donné le résultat de nos échanges, nos amis et moi-même. Je lui ai dit, Régis, tu connais le travail de Charpentiers sans frontières. Il se trouve que les méthodes de travail que nous pratiquons depuis plusieurs dizaines d'années correspondent exactement aux méthodes qui ont prévalu pour la construction de la partie médiévale de la charpente disparue au moment de l'incendie. Et nous nous permettons humblement de proposer les expériences que nous avons pu constituer comme éléments de réflexion, comme éléments documentaires susceptible d'aider ou pas à tel ou tel projet dont nous ignorions évidemment tout.
Parce qu'il y avait la charpente de la nef et du chœur qui date du fin 12e, tout début 13e siècle, c'est ça la partie médiévale, et de l'autre côté la charpente de la flèche qui elle a été réalisée à la fin du 19e siècle par Viollet-le-Duc et sur laquelle vous n'êtes pas intervenu. Vous vous proposiez d'intervenir sur cette partie médiévale, donc nef et cœur.
Il se trouvait que les deux extraordinaires architectes du patrimoine que sont Rémi Fromont et Cédric Transeau avaient procédé 4 ans auparavant à la prise de mesures et au relevé d'une précision diabolique de toute la partie médiévale. Donc, comme vous venez de le dire, donc nef, cœur et abside, et que nous possédions grâce à eux, une documentation absolument unique permettant de renseigner, de documenter les parties disparues. Et donc c'est par rapport à ces parties donc, que je qualifierais de médiévale, que nous proposions notre aide ou participer à une réflexion pour orienter des travaux futurs. L'expérience que nous avions acquise ne concernait pas les parties réalisées au milieu du XIXe siècle par Viollet-le-Duc, donc comme vous venez de le dire, à savoir la flèche, les transepts nord et sud, et les beffrois qui avaient été également reconstruits pour supporter les célèbres cloches de Notre-Dame.
Quel défi posait la reconstruction de cette charpente? Quelles contraintes étaient les vôtres? Défi technique, dites-vous.
Notre position, bien entendu, n'avait rien d'évident. Nous n'étions que des membres d'une cohorte infinie de gens de bonne volonté, disons, qui tentaient de proposer, là encore, dans toute humilité, des portions de contribution. Voilà, c'était chacun, je crois qu'il y a eu un élan, on s'en souvient bien, une émotion qui a été partagée vraiment par tous, quels que soient les milieux, les confessions et les origines. Chacun sentait le besoin de se rendre utile. Donc notre position n'avait rien d'évident. Mais il se trouvait que, à une époque, là encore, sous le coup de l'émotion, beaucoup d'experts ou simplement de locuteurs ont tenu à s'exprimer, notamment par le biais des médias, et toutes sortes de points de vue ont été verbalisés, des points de vue parfois très, très éclairants et parfois...
Un peu moins.
Un peu moins, avec des hypothèses. Bon, et ça, c'est bien, c'est la preuve de la vitalité d'un sujet. Beaucoup de contre-vérités ont pu être données sur l'état de la forêt française, sur l'impossibilité que l'on avait à ce moment-là d'espérer même pouvoir reconstituer quoi que ce soit qui ressemble à la charpente d'origine. Et voilà, et c'est respectable d'exprimer ces points de vue. Mais il se trouvait que nous, par l'expérience donc de plusieurs dizaines d'années d'activité, nous avions des réponses très précises à ce type de questions. Alors, bien entendu, nous n'avions jamais reconstruit de charpente d'une telle ampleur. Ça, c'était ça le côté, évidemment, le défi, l'épreuve, le challenge extraordinaire. Mais qualitativement, nous avions tous les éléments en main. Il nous fallait ensuite proposer, d'abord nous faire connaître notre présence et les suggestions que nous permettions d'apporter au dossier. Encore une fois, nous ne cherchions pas à parler plus fort que ceux qui voulaient mettre du titane. On n'était pas dans un bras de fer ridicule. On était juste dans... la juxtaposition des propositions de manière à ce que les décideurs puissent, en connaissance de cause, avoir tous les éléments en main.
On se souvient, pour donner un peu d'éléments de contextualisation, François Calame, des débats nombreux. Vous évoquiez les prises de position à travers les médias, mais il y avait des débats, même législatifs, sur la façon de reconstruire entre tradition et innovation. Alors, toutes sortes de solutions ont été avancées. Au début, c'était plutôt des solutions industrielles avec des matériaux et des savoir-faire d'aujourd'hui qui étaient privilégiés. Puis, on entendait que, c'était pas mal de reconstruire à l'ancienne. Et puis, en 2019, le Sénat avait voté l'inscription dans le texte que la restauration devrait être fidèle au dernier état visuel connu de la cathédrale avant l'incendie. Donc, c'est dans ce cadre-là que vous intervenez. Est-ce que vous pouvez, même si on commence à l'entendre après quatre émissions précédentes, clarifier la position qui était la vôtre? Qu'est-ce que vous proposiez, vous, de reconstruire à l'identique, à l'ancienne, à la main, avec du bois vert?
Oui, c'est tous ces termes à la fois qui caractérisaient notre position, dans la mesure où c'était véritablement avec l'ensemble de ces paramètres que nous étions à l'aise. Et il y avait une logique d'ensemble. On pourrait très bien dire, ah ben, on peut choisir une partie du raisonnement et puis à côté, juxtaposer ça avec d'autres éléments plus contemporains. Bon. Mais la position très forte qui a été défendue par Philippe Villeneuve, l'architecte en chef, et ses deux confrères Rémi Fromont et Pascal Prunet, qui ont vraiment joué une solidarité extraordinaire sur ce projet et une cohérence qu'on a admirée tout au long du chantier, ils ont apporté la preuve que la solution du recours aux matériaux et aux techniques d'origine apportait véritablement la cohérence, y compris pour des raisons purement mécaniques, pour des raisons architecturales, et pas uniquement des raisons idéologiques.
Vous dites, François Calame, qu'il y a des arguments architecturaux qui se tiennent, qui sont très forts, et d'ailleurs vous avez fini par emporter le morceau. C'est aussi au-delà de la charpente elle-même, au-delà même de ces arguments architecturaux, est-ce qu'il n'y a pas aussi pour vous une discussion plus profonde, historique, culturelle, cette idée que chaque chantier est une opportunité pour bâtir des ponts entre les époques et les cultures, parce qu'on l'a vu avec Charpentier sans frontières, c'est aussi entre les pays, mais que ça conjugue passé, présent et futur, et que c'est aussi un état d'esprit que vous voulez défendre.
La présence de l'élément végétal, de la forêt, le retour à la forêt. La forêt préexistait et c'est clair que nous avons milité pour qu'elle soit rétablie, était pour nous une dimension qualitativement et du point de vue de la sensibilité, une dimension très importante. C'est certain, il ne faut pas le minimiser, il ne faut pas se cacher, bien entendu, uniquement derrière des arguments d'ordre technologique. L'acte de bâtir est un acte culturel, c'est un acte sensible et c'est pas seulement un savoir d'ingénieur ou d'équation mathématique. Et la présence du végétal, évidemment, on le trouve tout au long de notre pratique depuis des années, c'est le recours à un matériau qui, sur le plan symbolique, et je ne veux pas rentrer dans des arguments d'ordre mystique, mais apporte une profondeur, une dimension sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse. Le caractère sacré de l'élément végétal, de l'arbre, se rencontre dans toutes les civilisations depuis la plus haute antiquité. Il y a eu des théoriciens qui ont travaillé sur ce sujet, les archéologues le connaissent aussi. La symbolique du chêne était en particulier... Le chêne revêt une importance symbolique, Quercus robur, le chêne chez les Latins recouvrait cette symbolique extraordinaire de la force vitale. L'arbre cosmique, c'est aussi quelque chose qui se rencontre dans la plupart des civilisations. C'est cet arbre qui permet de relier par ses racines les forces qui émanent du sol et qui rejoignent les éléments vivants et spirituels qui se trouvent au-dessus de nous dans le ciel. Bon, ce sont des dimensions qu'on ne peut pas ignorer, même si on se refuse à bâtir quelque système mystique que ce soit. Chacun est libre de recourir à ce que ça lui évoque, mais le fait de se rappeler que cette cathédrale qui avait été bâtie il y a 800 ans était protégée par des chênes, donc qui avaient eux-mêmes cet âge et qui avaient été des êtres vivants, et qu'aujourd'hui la forêt française qui contient le plus important massif forestier de chênes du monde, que cette forêt était capable en 2019, de produire à nouveau les 1500 chênes nécessaires à la réédification de cet édifice, tout ça, ça faisait sens. Enfin, pour nous, ça faisait sens.
Pourquoi ça fait sens pour vous ?
Et parce que nous sommes portés par ce dialogue entre les êtres vivants que sont les êtres humains et leur cousin ou leur grand frère ou grande sœur végétale à côté d'eux. C'est une osmose, c'est des créateurs comme le sculpteur Brancusi, nous l'ont fait sentir avec une force extrême, avec sa colonne sans fin. La naissance d'Adonis, on la voit dans l'iconographie, c'est un être vivant qui sort d'un arbre qui s'appelle Mira, et l'être humain et l'être végétal sont trop proches les uns des autres pour que on fasse comme si cette parenté n'existait pas, y compris dans le monde d'aujourd'hui. C'est dans le monde d'aujourd'hui.
C'est pour ça que vous tenez tant à ce travail manuel, à ce travail à la main, alors même qu'aujourd'hui, les machines pourraient faire le travail à votre place ?
Lorsque j'étais apprenti, un jeune lapin, comme on dit, et il y a de nombreuses années, en 1978, je travaillais dans une entreprise...
Chez les compagnons du
devoir. Je travaillais dans une entreprise qui fabriquait du lamelle écolé. Et on évoluait dans un milieu de hurlements de machines avec des casques sur les oreilles et des gens qui se regardent pas. C'est sûr que quand on a ce type d'expérience, on ne peut qu'ensuite apprécier une autre ambiance où on mettrait en œuvre le matériau bois, ce matériau vivant, mais en renouant un lien entre la main et la matière vivante que l'on a sous les doigts. Ce lien passe par l'esprit, il y a une triangulation qui se fait, qui doit se refaire, et quand on a l'occasion de le faire, eh bien, on prend du plaisir. Ça ne nie pas, bien entendu, l'efficacité ou la nécessité de la mécanisation. Nos enjeux ne sont pas de prôner un retour en arrière, nous ne sommes pas des passéistes qui défilons en haute chose et pour point à la recherche d'un Moyen-Âge fantasmé. Ce n'est pas ce Moyen-Âge fantasmé qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est un rapport actuel à la matière vivante qui nous entoure, et trouver cette expression de la main, de l'esprit et de la matière vivante, je pense que c'est un enjeu d'aujourd'hui.
Enfin quand même, François Calame, dans votre jardin, dans votre atelier, il y a plus de doloirs et de haches de partout, d'ailleurs dans le monde entier, je ne les ai pas comptés, mais je sais pas, il y a une bonne cinquantaine d'outils que même parfois vous façonnez vous-même à la main avec vos couteaux, que de machines.
C'est sûr que...
Je ne veux pas dire que vous êtes passéiste, mais enfin, il y a effectivement un rapport particulier à l'outil manuel.
Voilà, je pense que l'important, c'est d'avoir le choix. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le choix. Le choix permet à l'être humain de s'épanouir. La situation la pire, la plus caricaturale, serait celle de l'ouvrière ou de l'ouvrier qui, une fois que sa machine est tombée en panne, est obligé de s'asseoir en attendant que quelqu'un vienne la réparer.
François Calame, est-ce que, puisque vous nous dites que la marque de fabrique de Charpentiers sans frontières, c'est le travail à la main, et qu'on parle là de ce travail manuel, de ce savoir-faire artisanal comme patrimoine vivant, que ça vous semble très important et que ça fait plus de 30 ans que vous travaillez dessus, à le transmettre, à le faire savoir, à le faire connaître. Est-ce que, pour terminer, vous diriez que ce savoir-faire, comment dire, a du plomb dans l'aile, ou bien, compte tenu de la numérisation, encore une fois, de notre monde, ou bien vous avez vu en 30 ans un formidable progrès? Est-ce que vous avez vu changer les jeunes générations, vous en citiez quelques-uns, mais s'intéresser à cette valeur du fer, cette valeur du travail manuel, que défend d'ailleurs à sa façon un sociologue comme Richard Sennett dans ce que c'est la main et la culture de l'artisanat, mais un autre d'ailleurs américain, Matthew Crawford, qui est à la fois philosophe et garagiste dans son éloge du carburateur, qui montre bien que c'est important, comme vous le dites, d'avoir le choix de savoir se servir d'une machine, mais de savoir aussi faire des choses de ses mains, savoir faire de ses mains, c'est important de garder ça. Bref, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste aujourd'hui ?
Ben, je suis très optimiste parce que je me rappelle qu'il y a 15 ans, quand je faisais le VRP et que je parcourais les entreprises pour essayer d'attirer l'attention des professionnels sur ces techniques, sur ces possibilités au moins de les tester, de savoir qu'elles existent, savoir qu'elles peuvent cohabiter, eh bien, beaucoup de ces professionnels me riaient au nez ou me considéraient comme un zozo. Et aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans que nous recevions Charpentier sans frontières par le biais de son site internet, par exemple. Il ne se passe pas de semaine où nous ne sans recevoir 2 à 3 messages de personnes que nous ne connaissons pas du tout, françaises ou étrangères, qui nous disent spontanément, voilà, je suis très intéressé par votre démarche, des femmes et des hommes, je pratique, je suis professionnel, je veux diversifier ma pratique, je veux découvrir cet univers. Et ce sont des jeunes. C'est ça qui est flagrant. Il y a 15 ans, les jeunes n'imaginaient pas une seule seconde que travailler avec ses mains pouvait être un but en soi.
Reste à trouver un mot en français pour le savoir-faire manuel. Il existe Craftsman en anglais, Handwerker, j'ai pas l'accent allemand, pardon, en allemand, et puis bien d'autres que je vais pas citer, mais en français, vous voulez pas inventer un mot pour le savoir-faire manuel ?
Vous épinglez comme d'habitude, évidemment, une question essentielle, mais c'est vrai que c'est une question qui m'a longtemps hanté. Le mot artisan ne convient pas, il est souvent employé faute de mieux, mais un artisan aujourd'hui, ça renvoie un statut socio-professionnel, ça ne renvoie pas à une pratique et à un usage des mains. Vous êtes artisan chauffeur de taxi ou artisan coiffeur, c'est très honorable, mais ça ne renvoie pas à ce que vous venez d'identifier dans des langues étrangères où il y a probablement une tradition et un respect du travail manuel qui est plus ancré, plus ancien, que celui dont nous disposons en France. Je pense que, étrangement, la France a souffert d'une dévalorisation du travail avec les mains, et c'est pas nouveau, parce que dans l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, pourtant fascinés par les métiers, les encyclopédistes ont fait un ouvrage pionnier, ils ont décrit les métiers avec une précision, mais ils décrivent également dans les parties rédigées, je ne parle pas des planches magnifiquement illustrées et la description précise de chaque métier. Il y a des lignes que je n'ai pas sous les yeux là, mais où ils décrivent très clairement la différence qu'il y a entre les savoirs mécaniques qui sont quelque part un peu méprisables et les beaux-arts, les arts mécaniques et les beaux-arts. Et là, ça se passe du côté de l'esprit, et c'est vers ça que se dirige le travail, le savoir de l'ingénieur. Et on a clairement, même dans l'esprit des encyclopédistes, une hiérarchie qui est en défaveur du travail à la main.
Alors, puisque vous aimez les arbres, on va terminer par l'évocation d'arbres, puisque avec votre état d'esprit, votre esprit, vous avez planté des petites graines. Avec Charpentier sans frontières, dont vous récoltez les fruits, quelques 30 ans plus tard, vous nous l'avez expliqué. Et avec vos mains, vous continuez de le faire, non seulement créer des outils, mais planter un arbre en tout cas, qui est dans votre jardin.
À Rouen, nous avons une communauté d'origine turque qui est importante, qui est venue depuis 40 ans à la demande d'entreprises françaises qui cherchaient une main-d'œuvre robuste, courageuse, et qui a fait venir beaucoup de travailleurs venus d'Anatolie et qui sont notamment intervenus dans la construction des centrales nucléaires de Penly. sont intervenus dans la construction de terminaux à l'aéroport de Roissy, enfin, qui sont des gens à toute main extrêmement courageux, mais qui sont des paysans et qui ont édifié sur les bords de Seine des jardins ouvriers, dans des zones qu'on appelle des délaissées, c'est-à-dire c'est des zones de non-droit appartenant au port autonome de Rouen, mais qui n'existaient pas sur le cadastre, parce que ce sont des produits de dragage de la Seine, etc. Des terrains très fertiles sur lesquels les jardiniers turcs ont spontanément et sans demander d'autorisation particulière, ils ont fait ça spontanément, ils ont occupé sur plus d'un kilomètre ces étendues de jardins qu'ils ont colonisées petit à petit en rapportant de Turquie, en rapportant du village des cultivars turcs, en cultivant des légumes, en cultivant des fruits, que petit à petit on a vu grandir, et aujourd'hui ces jardins qui ont 40 ans possèdent ou possédaient, parce que malheureusement ces jardins ont disparu, sont en train de disparaître au moment où nous parlons. On voyait apparaître des néfliers du Japon, des noyers extraordinaires qui sont devenus de très beaux arbres. Malheureusement, les terrains étaient pollués. C'était gagné sur une zone qui, voilà, recelait une teneur trop importante en métaux lourds et autres pétrole. Les Turcs ont mangé ça, ces produits, pendant 40 ans. Je ne suis pas sûr qu'on ait des données très précises sur les effets sanitaires, mais aujourd'hui, ces jardins ont disparu, et j'en suis vraiment navré, parce que depuis 15 ans, je connaissais personnellement les familles, un certain nombre de ces familles qui se réunissaient régulièrement, qui entretenaient une sociabilité vraiment, vraiment riche et vraiment extraordinaire en bord de Seine. Voilà, ces jardins disparaissent et ne sont pas remplacés par quoi que ce soit d'équivalent.
Vous avez donc récupéré un arbrisseau ?
J'ai sous les gravats récupéré un petit arbre dont j'ai pris les racines de manière à pouvoir le restituer. Mais j'ai aussi dans mon jardin un autre petit arbre qui est lui un enfant, fille ou garçon, d'un des chênes de Notre-Dame que j'ai récolté en forêt d'Amboise au pied d'un des très gros chêne qui a été abattu pour la réalisation de la flèche de Notre-Dame, et il est en train de... Je l'entends pousser. Je pense que dans une centaine d'années, il sera assez important. Pour le moment, c'est ce qu'on appelle un sion d'un an, un petit arbrisseau.
Merci beaucoup François Calam pour ces 5 entretiens.
Merci Caroline.
C'était À Voix Nue avec François Calam, réalisation Guillaume Baldi, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.